Donc on va commencer par parler effectivement de la revue de presse. Donc toujours 4 catégories sur les nouveautés qui nous intéressent. Marvel, DC, Dark Horse et Image et le reste de l'univers des comics avec les indépendants. Donc 4 catégories par laquelle on commence.
C'est marrant parce que quand même Dark Horse c'est théoriquement considéré comme un indépendant.
Oui mais Image aussi maintenant. Dark Horse présente plus de production qu'Image.
Oui, des parts de marché aussi, on le voit au niveau des parts de marché aussi.
Tout à fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a remis Dark Horse et Image ensemble, parce que finalement c'est quand même les deux qui à eux deux pourraient faire un gros éditeur.
Oui, parce que là quand même ils commencent à se faire tailler quelques petites croupières par un Eagle Bayou ou des petits Dynamite
peut-être qu'un jour on aura Dynamite et IDW qui reprendront la place. Pour l'instant c'est les 4 catégories et on s'en sort plutôt bien comme ça. On va commencer par quoi? Par Marvel?
Ben, on commence par Marvel.
Alors chez Marvel, 3 doses de, c'est avec les vieilles soupes qu'on fait les meilleurs, enfin dans les meilleurs, vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, puisque chez Marvel, enfin,
ça dépend quel pot. Hein.
Voilà. Dans les pots de vache, effectivement, c'est pas le cas. Donc, chez Marvel, 3 séries, 3 news en soi, donc sur des choses qu'on avait déjà vues. On va commencer par la première, c'est le label Marvel Noir. Alors chez Marvel Noir, on avait d'abord eu Spider-Man et les X-Men, on en avait parlé. Ensuite, on avait eu Daredevil, Punisher, Luke Cage et une sixième série.
Et Wolverine,
voilà. Donc on avait six séries.
En fait, pour remettre un petit peu pour les personnes qui ne suivaient pas ou qui n'avaient pas connu le principe, je crois qu'ils ne sont pas encore traduits en France.
Non, pas du tout. Non.
Donc en fait, Marvel Noir, c'est réinventer l'univers Marvel au moment de la prohibition, donc au début des années 30. Alors effectivement, tous sont tous en costard, avec le Borsalino, la Thompson, pas forcément pas de pouvoir, mais ça rend quelque chose, c'est une quelque chose assez étonnant. Donc effectivement, on aime ou on n'aime pas, il y a des séries qui sont plus intéressantes que d'autres. Spider-Man noir a très bien fonctionné, le Frank Castle, enfin le Punisher aussi, était très intéressant parce que la déclinaison du Punisher au sein de cet univers années 30, finalement c'était une très très bonne idée. Après bon, les X-Men noirs c'est pas tout à fait au top, ce qui est dommage parce que les scénaristes sont quand même attachés à travailler vraiment l'esprit du film noir, un peu avec tous les codes un peu à la Marlowe et Alan Frébogart, tous ces films de Chalamet, donc très très bon.
Là, deux séries sont relancées, et plutôt que de relancer d'autres personnages, ils reviennent sur les deux premières, donc X-Men et Spider-Man, dans deux nouvelles mini-séries, toujours par les mêmes équipes. Alors, on va pas trop parler de Spider-Man noir. Pourquoi? Parce que juste après, justement, on va vous repasser une chronique que j'avais faite ici sur cette série, donc de David Hein et Frank Sapolsky. Et là, donc sur X-Men Noir, donc j'en avais vaguement parlé déjà dans la revue de presse. En fait, moi, ce que j'ai reproché à X-Men Noir, c'est que la caractérisation était pas très réussie et que des fois, on avait un doute sur savoir quel était le personnage qu'on voyait.
Oui, enfin la caractérisation, mais je pense aussi que le dessin, enfin il y a eu un parti peu graphique sur cette série qui fait que le dessinateur n'est pas forcément le plus lisible. Et effectivement, il y a des moments pour comprendre qui est qui, c'est pas toujours évident. Donc oui, là c'est un petit peu le bémol, mais ça n'a pas été la série la plus réussie sur le lot. Mais comment dire, on ne peut pas reprocher à Marvel au moins d'avoir essayé d'innover et de sortir quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire.
Là-dessus, on est bien d'accord. C'est vrai que le concept était quand même très alléchant. Et même sur Spider-Man Noir, je crois que c'est aussi ce qui fait que j'étais un peu déçu par cette série, qui au demeurant avait des tas de choses à proposer. Voilà. Donc ça, c'est effectivement donc le retour du label noir avec ces deux séries qui valent quand même probablement le coup d'être lues. Au moins pour la Spider-Man Noir, moi c'est sûr, j'achèterai, même si je me suis dit depuis un moment que les titres Marvel c'était trop cher pour moi. Là, je pense que de toute façon, je vais craquer et je vais me le faire. Donc ça, c'était effectivement la première chose. La deuxième chose, c'est X-Factor. Donc X-Factor, pourquoi je vous en parle, c'est pas une série non plus qui revient depuis peu. X-Factor revient avec une nouvelle numérotation. On a eu le numéro 51, le 50.
Non, 50.
Et là, on va arriver au 200.
Bon, pour tout dire, on revient sur le bon vieux système de numérotation, enfin aussi décrié que de Marvel, de réunifier tous les volumes de toutes les séries phares. Donc à partir d'un moment, bon, c'est, effectivement, c'est sympa d'avoir des gros chiffres sur les couvertures, mais là, ça devient un peu n'importe quoi. Enfin, surtout des séries comme Hulk ou Thor, où là, plus personne ne sait qui faisait, enfin, ne sait plus s'y retrouver. Parce que quand on est sur 3 ou 4 volumes...
Sur Thor, en fait, en retravaillant un peu les chiffres, tout le monde va commencer à comprendre comment ils ont réfléchi. Sauf que sur Hulk, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir trouvé ça.
Mais si on pousse la logique sur X-Factor, on ne peut pas trouver ça.
Parce qu'il y a le volume 2 avec 4 numéros.
Eh oui, il y a la mini-série qui n'était pas sur les mêmes personnages et tout, donc effectivement, on peut à la limite, on peut la considérer hors continuité. En continuité, mais hors continuité de la série mère. Bon, effectivement, là, sinon, on retombe sur nos pattes. 149 numéros plus 50, et hop, donc on arrive bien, effectivement, à ce numéro 200. Quoi. Mais ce qui en soi quand même une belle récompense, parce que on ne peut pas dire que, enfin, c'est une série qui est quand même acclamée au niveau par la critique, qui n'est quand même pas forcément gâtée par les dessinateurs qu'il a, et que bon, elle ne tient que par les scénarios de Peter David. Donc bon, c'est une série survivante qui mérite d'être soutenue.
Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui.
Donc, et que j'achète toujours la série aussi.
Voilà. Donc là, quand même, par rapport à ça, que vous dire dessus ? C'est que désormais, c'est dessiné par Bing Concino.
Oui. Et qui a fait quoi, cet illustre inconnu ?
Eh bien, même Marvel n'a pas l'air de le savoir, s'il n'en parle pas dans les sollicitations. Donc, effectivement, comme tu le dis, personne ne connaît Bing Concino, là. Et on va donc
donc
voir...
ils vont vendre tout ça que sur le numéro de la
alors et sur
le pi... enfin alors, sur le la pitch notation et sur le travail de Peter David.
Exactement. Donc là, bah, quand même, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire quand même dessus, c'est que on a quand même d'autres informations qui nous ont été données, notamment effectivement qu'ils reviennent à New York et que leur premier travail, ça va être effectivement de retrouver la femme invisible puisqu'ils sont payés par Franklin Richards. Ne rigole pas, c'est pas un scénario, je vous promets, pour la ligne enfant. Non, non, c'est bien un scénario de Peter David et par conséquent, on lui fait un peu confiance.
Oui, parce que quand on voit ce qu'il a réussi à faire avec le personnage de Leia Miller et depuis Messia Complex, enfin le conceveur de Messia Complex, faut dire que c'était assez superbe. Parce que dans la catégorie que série un peu. Malmené par les choix éditoriaux haut placés, X-Factor quand même se posait là.
Non, ça c'est sûr. Ensuite, chez Marvel, la troisième et dernière nouvelle, c'est le retour des one-shots de What If. Alors What If, on en a déjà parlé, plusieurs one-shots donc se font régulièrement, ils nous relancent une vague. Alors
What If, c'était quand même pour remplacer une vieille, un vieux concept qui avait été lancé dans les années 70, de réimaginer ce qui aurait pu se passer dans les très grandes sagas ou les grands événements de l'univers Marvel. Donc à l'époque, pour les premiers volumes, c'était quand même avec des auteurs de assez grande qualité. Il y avait eu Roy Thomas qui était passé dessus, il y avait aussi Frank Miller, il y avait eu John Byrne. Donc c'était quand même des petites choses assez intéressantes. Et ils poussaient un petit peu les situations assez loin. Et c'était vraiment une bonne lecture. Il y a eu un deuxième volume après qui était un peu plus anecdotique, qui fonctionnait pas trop mal au début, et puis qui à la fin c'est devenu une sombre bouse,
voilà. Pour ne pas dire autre chose. Donc quand même là, pour en revenir, on nous fait des one-shots, Alors, toujours Marvel dans le je sais pas si je fais du 3,99 pour tout ou pas. Donc là, ils ont fait des 3,99. Par contre, ils font des 48 pages. Donc, du coup, ça revient moins cher que les séries habituelles. Donc, par contre, c'est plein de numéros avec deux histoires différentes et deux équipes.
C'est ce qui se fait dans une grosse partie des one-shots, hein, depuis les What If qu'ils avaient fait, comme celui sur. Annihilation.
Tout à fait. Donc là, ils en refont un sur Astonishing X-Men. Avec la question, est-ce que Jean Grey avait ressuscité à la place de Colossus?
Ouais.
Et la deuxième, c'est et si Danger était devenue la fiancée d'Ultron?
Ça peut être plus marrant.
C'est assez audacieux quand même, le dessus, on va pas en retirer.
Une intelligence artificielle Shi'ar avec Ultron, ça me donne presque envie de l'acheter. J'entends voilà. Le premier, bon, pour...
Alors, le problème, c'est que les auteurs sur toutes ces séries vont être assez...
Inconnus,
voilà, tout à fait.
Bon, enfin, grosso modo, Marvel utilise ça pour essayer de tester les auteurs qui pourraient être appréciés pour le tableau.
Voilà.
Donc, on jette sur les murs et on regarde ce qui colle.
Voilà, cool. Donc là, ce sera du Matteo Casali et Mike Getty sur cette deuxième histoire. La première, c'est du Jim McCann et David Jardine. Voilà, c'est. On est un
faut
peu.
Faut voir, quoi.
Voilà.
D'abord, de toute façon, il y a toujours à boire et à manger là-dedans.
Alors, le deuxième,
mais
quand même.
Une surprise.
Deuxième, sur World War Hulk, avec. Et si les héros avaient perdu la guerre contre Hulk, truc classique.
Ils avaient déjà. En plus, si je me rappelle bien, il y avait déjà eu une histoire de ce type.
Voilà.
Mais ils en avaient fait un What If de ce type.
C'est possible, mais.
Mais sur World War Hulk,
mais c'était. Ouais. Je sais plus si c'était sur World War Hulk.
Si.
Et la deuxième histoire, c'est. Et si Thor avait participé à World War Hulk, en gros. Si Straczynski avait accepté de faire ce que Joe Quesada voulait. On peut le voir comme ça.
De toute façon, ça aurait fait encore un...
Voilà. Alors, il y en a...
Ça aurait été encore bien bourrin, quoi.
Voilà, donc il y en a 5 en tout. On va continuer avec le Spider-Man, House of M. Et si Gwen Stacy, avait survécu. Voilà. Et la deuxième histoire, et c'est « Et si Gwen et Richie Parker existaient dans notre monde ?» Voilà, donc là on est vraiment un peu dans le recyclage, parce que la série était bonne, mais c'était pas la peine d'en faire autant. Sur
ouais.
Secret Invasion, il en fallait évidemment un. Et là, on a évidemment la première histoire, et si les Skrulls avaient gagné ?
Classique, mais pourquoi pas,
voilà.
Après tout.
Et la deuxième.
Mais bon, quand on voit l'exécution de la mini-série, on aurait presque pu dire que les Skrulls auraient mérité de gagner.
Voilà. Et la deuxième, c'est et si l'invasion secrète était restée secrète ?
Et si on avait et si Marvel n'avait pas confié le scénario à Bendis, ça aurait donné quoi? Voilà un what if intéressant.
Voilà. Bon allez, on va pas être méchant quand même, on va finir sur le dernier. C'est un what if Daredevil contre Elektra. Et là qui pose une question plus intéressante. Il demande et si c'était Daredevil qui était mort et ressuscité par la main et non Elektra.
Ah, ça
et là, effectivement, la question
ça peut, être
peut être intéressante.